Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Edius, tout raboustin, les mains griffées sur son sac, resta le ventre enfoncé dans l'omelette. Il osait pas mauve. Les deux canardeurs s'étaient arrêtés de faire usage de leurs armes. Dès le début, Mamselle Grandois avait été la plus smarte. À peine elle avait vu paraître Shérif Vaughan, enfouraillé comme un poisson armé, elle avait jugé que l'affaire était partie pour un tuage ou un massacre. La négrette avait ramassé ses pondrioches, pris sa jupette à son cou et avait holé ses chines loin de ces deux batailleurs-là. Vitement, elle s'était loquée chez elle. Sur le terrain, vieux Vic rechargeait son pistolet. Conscient qu'il avait en face de lui le genre de démon qu'on fait pas reculer avec un bâton, il s'était mis à jongler avec l'idée d'un duel. Il savait bien dans ce shooting qu'il risquait pire que dans tous les autres coups durs de sa vie, même affronter 12 physiques crachant de la poudre à la sortie d'un hall de danse. Cette fois, la mort serait sûrement d'un côté ou de l'autre du rendez-vous. Elle ferait crédit au plus rapide et emmènerait l'autre au fond des abysses. Ça encore, Vaughan y était préparé. Mais avant, il y aurait ces moments aigus et lumineux où les yeux s'observent, où les oreilles, comme celles des animaux, s'agrandissent vers le sens où est le danger. Cette faculté archaïque d'éventer le moment culminant juste quand la haine, ultime message, devient un vol d'oiseaux aveugles. Et puis, trao ! Plus revenir en arrière. Jamais. Accepter d'être à la merci d'une vitesse capable de vous expédier bénir en paradis avant que l'escousse de la balle vous ait fait seulement revenir de votre stupeur. Souvent fois, vieux Vaughan avait vu des types shoot down, des gars foireaux sous leurs jaquettes, bien grillés, gras comme des cochons au parc, et qui, deux secondes plus tard, luttaient contre un voile devant les yeux. Une taie épaisse et trouble. Si le lac avait reçu une colique de plomb, c'était pas chrétien de regarder sa grimace. Son sang vidait dans l'abdomen. Il commençait vite à se déparler. Et pas besoin de se détourner par chez le docteur pour le sauver. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'emmener le pauvre foule se faire mesurer le mannequin chez l'entrepreneur de pompes funèbres. L'Undertaker, en d'autres mots. Toujours le gars était passé au jugement dernier avant d'arriver pour sa toilette. Toujours, il gardait l'air étonné. C'était une constatation. Comme si sa vie avait été rappelée à la vole. Vieux Vaughan contempla le barillet de son 5 coups et le bascula soudain. Il se dit « Tiens, que c'était dimanche, demain. » Par la grâce de la pensée, il laissa s'approcher de sa mémoire le son d'une volée de cloches et imagina la robe des dames entrant à l'église de Bayoun et Piquet. C'était une belle image de paix, de calme, d'ordre et de prière qu'il tenait enfermée. À ce tarif-là, Shérif Vaughan, catholique à gros grains, n'arrivait pas à tarir son sourire immobile. Le temps pesait 6 plumes qu'il avait beau se sentir un homme résou, une nuée était descendue sur son âme, il serait bien resté mélancolique. Mais voilà qu'une balle plus ronflante que les autres perça son chapeau et le ramena à la réalité. C'est dire si le bon sens pour lui n'était pas à hucher les élégantes qui passeraient demain sur le parvis de l'église. Encore moins à penser au plaisir qu'il aurait eu à cette heure à manger un blanc de canard d'Inde. Le shérif a essayé de se tourner sur le flanc. Là-dessus, presque aussitôt, bzzz, encore une prune a frisé sa chemise à hauteur de l'épaule. Quand il a vu ça, vieux Vic s'est dit « Well, la seule personne qui compte ici, c'est moi. » Puis le moment n'était pas à se laisser crimer derrière une caillasse. Alors il a pogné son arme. « Crowley !» il a bagueulé avec beaucoup de force. « Je vais sortir. Je t'offre un combat royal. Pour moi, c'est tout pareil. Ta peau est bonne, c'est mort ou vif. » Pour être plus à l'aise dans la bataille, il a mis son doigt dans sa gorge et a vidé son estomac. Rien ne bougeait dans les fourrés. Le soleil était devant lui, une boule éblouissante. « Je sors, comme je t'ai dit, » il a annoncé. « Grand rond !» Il s'est redressé avec lenteur, il plissait les paupières. À contre-jour, se silhouettait déjà la carrure démesurée de son adversaire. Vieux Vic ne connaissait rien de celui qu'il allait affronter, hormis que l'Outlaou portait la montre de son père dans la poche de cœur de son gilet. On disait jusqu'à Mamou que Farouche Ferraille Crowley était deux ou troisième sur le cinq doigts de la main des plus crack-shoots de tout le Midwest. Un homme comme Silla, sûr, c'était peste et choléra. Même ses yeux, à ce qu'il paraît, avaient manière une couleur de foudre. Mais dans le cas de Vic Vaughan, shérif assermenté, qui fait mieux que de l'affronter? Quelle meilleure fin envisager? Comme dites les vieux du coin, puisque la peur est un fardeau, rien n'est pire qu'une longue maladie terminale. Si je vire de l'œil une balle au cœur, j'aurais été un chêne pour des glands et la mer pour du vent. Ainsi pensait-il. Il sentait la force dans son bras. « Rends-toi, Crowley !» gueula-t-il, pour avoir l'air de parlementer. « Laisse-toi faire prisonnier, puis la loi de Louisiane te donnera un fer trial. » En parlant de la sorte, il se déplaçait un peu en espoir pour être moins contre le soleil. « Si t'étais gone au Mexique, t'étais sauf de la loi, » poursuivit-il d'une voix très forte. « Mais sur le territoire de cette paroisse, t'as aucune chance. Surtout suite à ce grand tirage que tu nous as fait. » « Je suis prêt à payer le bill, » dit Cromwell. « Faut seulement trouver l'homme pour me tuer. »« Peut-être que ça sera moi, » continua le vieux Vic, avec sa façon de boulet qui connaît tout. « Si le bon Dieu veut, je serai ton tueur. » Il marchait toujours, les mains le long du corps, l'œil aux aguets. Petit peu à petit peu, sans faire de mousse, il se déplaçait. Edius avait relevé la tête de son rang d'herbe. Il reluquait le manège du shérif. Plus le trick de Vic l'éloignait vers sa gauche, moins le cultivateur se trouvait sous la mire des deux champions. Dès qu'il le jugea bon, sans demander son compte, avec son sac, ses parafernali et son restant d'eux, le vieux tigre gicla devant lui, tonnerre de Dieu, en se souvenant que mieux vaut être capon vivant que défunt brave. Il s'en rentourna vers le bas de la pente. Ça, il dévalait vitesse sur ses mollets de coq. Il se cogna presque dans la traiteuse au point de la renverser. Mlle Grandois venait juste de ressortir sur le devant de sa porte. Elle croisait ses mains devant sa poitrine. « My God !» souffla-t-elle au vieux bougue. « Avec ces deux-là proches de s'assassiner, nous v'là pire que sur un nick de guêpe. » Farouche Ferraille Crowley détendit imperceptiblement son bras. Vieux Vic fit encore un pas. Arrêtez de circuler sur votre sulky autour de moi et de me faire désaccroire, commanda Farouche. Sinon, je tire sans attendre que vous soyez dans vos marques. Tu crois que je suis un cheval ? Plaisanta l'autre. Non, mais t'es grandement aussi couillon. Et crois pas que je vais te laisser débiter tes menteries pour m'amuser jusqu'à avoir le soleil contre moi. Le shérif Vogue s'a arrêté. C'est tout le terrain qu'il pouvait gagner. Farouche a élevé sa main droite pas loin de sa crosse. Sa respiration était devenue plus longue, plus régulière. Pour se rendurcir, il pensait aux grandes lamentations de son copain Blondie McElroy avant de crever. Autant dire un souvenir qui lui soufflait la haine encore assez. Ça fait, tout était prêt pour la bataille. Longtemps, les deux hommes se sont étudiés avec une mauvaise regardure. Les bouches tiraient des traits. Les yeux, c'étaient des lacs. Les revolvers attendaient leur tour pour bûchailler. Planqué dans ces nuages, Dieu était un grand planeur. Avez-vous déjà vu la mort déployer son éventail ? Plus tard, quand il aurait retrouvé l'usage de sa voix, Idius Raquin raconterait que dans toute la Parpagne même, les insectes s'étaient mis à faire un silence de jardin. Jusqu'aux rats de bois qui se mangeaient les joues pour pas crier. En glissant, un flocon de nuages s'était étalé en travers de la lumière. Et la demi-seconde d'après, le front emporté par un vol d'oiseaux noirs, le shérif Vic Vaughn était mort. Soleil éteint. Il n'avait pas souffert. Ce fameux lendemain qui tombait un dimanche, Azeline avait lavé ses cheveux, passé sa gentille robe, enfilé ses bas blancs, posé un châle sur ses épaules. Elle attendait son père pour la conduire à la messe. Toujours ça, il faisait le vaillant bougue accompagner sa fille afin qu'il n'y ait pas du grabot en ville sur la moralité de la famille Raquin. Du mauvais monde qui serait tenté de nasiller que la caillette était trop livrée à elle-même, ou, plus micmac encore, que la pauvre enfance allait faire toucher Minette dans les rangs de coton par un coursailleur. Des joseries pareilles s'étaient déjà vues dans la paroisse. Des godames parlementages qui abîment les réputations de la jeunesse et souillent l'avenir des demoiselles, si bien que, depuis que sa fille était éligible, Raquin, à la sortie de l'église, était encore plus méfié des saluts appuyés adressés par les gens sourissant du miel que de l'indifférence de ceux qui ignoraient sa main tendue. Il était farouche et dius sur les principes.
Astro jet, whisper jet, clipper jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. La Sophie qui venait de partir, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Y'avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient dans dedans et qui faisaient du ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be Pan-American. Je suis mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be Pan-American. Mais je sais plus, je ne sais plus où je suis, où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute, et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuit. Elle est là, que j'avais ramassé, sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be Pan-American.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Asseline s'était fait un minois approprié. Elle s'était peinturée juste assez de rouge sur les joues et laissé les lèvres au naturel. Surtout, elle s'était greffé un petit chapeau incliné coquin sur ses cheveux bien peignés. Elle détestait pas sa fistolée avec un peu d'après quand elle allait à Bayou n'épiquer. Manquait que Popraquin pour atteler le vieux cheval, tinoir, au wagon à capote, transformé pour l'occasion en carrosse à deux sites. Mais devant sa glace où la jeune fille attendait, l'heure avait beau filer au cadran de la vie, cher Dad était pas là. D'où c'est qu'il pouvait être ? Bravant la chaleur qui tombait pourtant rude, Aseline avait fini par sortir dans la cour. Elle croyait trouver Edius occupé à quelque travaillage dans le clos. Au lieu de cela, elle croisa sa maman qui partait battre son linge au lavoir. « Tiens, remarqua-t-elle, tu laves encore ?» Traversées par une gêne, les deux femmes se dévisagèrent furtivement. Basel se détourna la première, manière de ne pas répondre. Une rangée de perles de transpiration ourlait les lèvres de la lavandière. Le regard d'Alezine voleta jusqu'au corsage et au jupon de sa mère qui bouffait du panier. « Look, môme, dit la petite, t'as une araignée sur ton linge. Tante Nadée dit que c'est un signe d'argent. » Basel donna une pichenette sur la bétail à huit pattes. Elle dit assez mauvaise humeur parce qu'elle prisait guère la veuve de Nonxostène. « Tante Nadée, c'est une witch. Sans compter que c'est pas encore aujourd'hui qu'on se rapproche millionnaire. » Azeline se mordit les lèvres et s'en voulut d'avoir eu le taquet trop long. Dès qu'on abordait le chapitre de l'argent, elle aurait pourtant dû savoir, Basel prenait des couleurs d'excitation. « Ça m'en fait de te mettre à l'envers, momie, s'excusa la jeune fille. C'est Popa que je cherchais. L'aurais-tu pas vu galoper dans la cour ?»« Ton père ? À la barre du jour, il a foutu son camp. »« Et pour la messe, il a rien dit ? Rien ?» Azeline fronça les sourcils. Ses yeux s'emplirent d'une indicible tristesse faite d'étonnement et de rancœur. « Je comprends pas qu'au faire, il m'a pas averti, » murmura-t-elle. « Depuis qu'il a été mordu, il n'y a rien à comprendre. Il sort, il vient, il gigouille, c'est son serpent mocassin qui lui aura mis la coyote à l'envers. » Hier soir pourtant, quand il est rentré à la brune, il avait l'air si tanné, une couleur à faire peur. Ce matin, tout le contraire, Mister était bien chaud comme une cafetière, bagouli par-ci, bagouli par-là. Il disait qu'il allait vendre sa terre pour aller au Grand Texas. Là-dessus, tu sais ce qu'il m'a demandé de faire pour son plaisir ? Enlever ton caraco, momie, et le rejoindre à l'écurie, si c'était ça. Le cou de Basel s'était empourpré d'une plaque de contrariété. Un archipel qui lui prenait sous l'oreille. Quand les choses étaient vrongues. Alors quoi ? Ramasser des lèches rouges pour empâter son hameçon, et sans dire merci ni rien, il s'appartit à la pêche. À la pêche ? Un dimanche matin ? Azeline n'en croyait pas sa frimousse. Elle avait retiré son chapeau, et lentement, elle en tournait le bord dans ses mains. « À la pêche au codfish bleu !» confirma Basel, d'une voix ferme et détachée. Et son frottoir à la main, elle bougeait pas d'un pouce. L'instant d'après, c'était la petite qui courait à toute éreinte sous le soleil. Elle descendait vers la rivière. Elle n'avait pas pris la peine de remettre son chapeau. Elle galopait hors d'elle-même. Les épines et les fanes de maïs crissaient avec un bruit si fort sur le bord de sa robe qu'il ressemblait à un rire de moquerie. Sans raison véritable, portée par un élan qu'elle ne mesurait pas, stimulée par une urgence qui dépassait les limites de sa comprenure, elle se soumettait à l'instinct qui la poussait. Elle se hâtait à perdre haleine. Comme elle était rendue à une croisson des chemins et qu'elle hésitait sur la direction à prendre, il lui sembla entendre un éclat de voix. Elle reprit sa course, les cheveux dénoués, une main appuyée sur sa hanche pour contenir son poing de côté, et au débouché d'un chemin méchant tout au bout d'un plantain bas et humide qui longeait la rivière, elle fut bien attrapée par ce qu'elle vit. Parce que c'était ce qu'elle attendait. Parce qu'aujourd'hui, c'était le jour. Oh, yéyaï ! Son cœur lui faisait mal. À la veille de sucer le jus de ce beau printemps d'aventure, voilà que, comme une gourde, elle était après pleurée. Et la bouche en feu, elle se dissimula. Sous les feuillages. Ils étaient venus par la rivière. Et Dius Raquin se tenait debout à l'arrière de sa pirogue. Il l'avait embourbée droit dans une titance broussaillée par des herbes. À l'avant de l'embarcation, faisant face au vieux agriculturiste, se dressait la silhouette élancée de l'inconnu. Il tournait le dos à la jeune fille, mais Comme la Doucette avait l'œil sharp, elle remarqua aussitôt l'économie de ses gestes, la largeur de ses épaules, l'étroitesse de ses flancs battus par la gaine d'un revolver. Tout de suite, elle fut beaucoup intriguée par les mouvements de ces deux-là. Sûr, Castor, c'était une drôle de maniquette qui se tramait. Elle était encore à se demander quel sac de charbon ils étaient occupés à soulever quand elle comprit que c'était un homme mort qu'ils étaient après débarqués. Alors, vitement, elle coula entre les fourrés pour avoir une vue plus propice. Tant pis sa robe, si l'étoffe moirée y gagnait des échelles, elle coupait par les talles des ronces, son châle s'effilochait derrière sa course, elle avait oublié l'heure de la messe. Elle gâchait ses bas en naviguant vers le mystère. Des frissons de feu descendaient en escalier de ses épaules. Soudain, elle s'immobilisa. Tapie dans la fraîcheur du sous-bois, elle passa sa langue sur ses lèvres salées. Elle se sentit aussitôt envahie par la familiarité douce et apaisante de la nature. Un état d'harmonie qui la ramenait au temps de son enfance. Une époque pas si lointaine où ses pieds ne faisaient pas de bruit, où son corps pesait à peine. Elle se retourna comme si on l'avait appelée par son nom. Elle découvrit derrière elle un chemin qui s'enfonçait vers une région de silence et de fond brun. Elle imagina la présence d'une eau vive tapissée d'ombrage, et derrière l'épaisseur d'un couvert de feuillage, l'éblouissement d'une brusque trouée de lumière. Elle retrouva l'allégresse qu'elle avait éprouvée une fois au hasard d'une promenade solitaire en tombant sur des corps nus et mouillés, partageant comme en une danse libre et légère les jeux secrets du soleil. « Quand j'étais une petite fille, » murmura Aseline, « quand j'écoutais les sources. » Et brusquement, en entendant une branche morte craquer dans la proche distance, elle s'écarta du rêve. Ployés sous leur fardeau, les deux hommes s'étaient rapprochés de la lisière du bois où elle se trouvait. Ils avaient porté le défunt au fond d'un trou préparé à l'avance. L'ensevelissait pelleté après pelleté avec un accord calme et tranquille, et bon jardinier piétinait la tourbe pour bien qu'elle s'enfonce. Bien que le spectacle dont elle était témoin fût pénible à supporter, Aseline avait l'impression d'assister à une série d'actes paisibles effectués par des gens qui faisaient ça qu'était leur duty. Les deux fossoyeurs parlaient de bonne humeur avec un esprit de gaieté et un feu dans leur poitrine pas ordinaire. Une manière bizarre que Raquin et son compagnon avaient d'aborder tout, même le plus macabre, avec une idée rieuse de la vie. Disait Edius Raquin, « Il y a une chose qui est ennuyante, voyez-vous, cet homme-là, Vic Vaughan, c'était un bon catholique. Il faudrait lui jouer une manière de petit requiem. » Tu connais la musique assez pour le faire ?
Je dis pas que c'est impossible, répondait Edius. Dans le vieux temps, j'ai appris les mots à l'oreille. J'ai pratiqué sur un petit violon et puis j'ai flûté de la musique de bouche dans les balles de la maison, d'une harmonica américain.
Ça faisait venir un smile sur les lèvres du grand garçon en cuir. Sa bouche a 1000 dents. C'est tout ce qu'Aseline pouvait voir. Sous son 10-gallon hat. Le reste de sa mâchoire était mangé par la barbe, et une tache d'ombre partageait son nez. Il planta sa bêche et fit quelques pas. Il avait des allures de fauve, et toujours ses pistolets. « Prends garde de ne pas te laisser séduire, » pensa Aseline, « car celui que tu regardes est un homme de violence. » Elle reporta son attention sur son vieux dad et ne reconnut pas en lui l'homme de douceur et d'attention qu'il avait tapissé au fond du ventre de sa mère. Elle lut une sauvagerie nouvelle sur son visage amaigri et sut qu'il était emberné par son compagnon. Ainsi vont les choses, pensait Aslin. Pendant des années, vous croyez que les êtres que vous connaissez le mieux sont faits d'un bois tendre et raboté, et un jour, à l'improviste, l'écorce odorante est hérissée d'échardes. À un monde tendre et paresseux succède celui du hasard et de la force brutale. Et cette fureur, ce bruit, ce désordre, cette sensualité qui s'apprête à vous engloutir constituent justement les nœuds de la corde que vous avez tressée à votre insu. Vous étiez prête à acclamer les péripéties. Vous les appeliez de tous vos souhaits. Votre caractère d'apparence soumise était seulement la jachère de votre âme tourmentée. Et les autres vont devoir vous découvrir différente et audacieuse, pendant que vous êtes cependant la même. Une jeune fille, neuve, sous un châle du dimanche.
Voilà, nous avons terminé donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.